Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Lecture en liberté, Denis Flageul.
Bonsoir. À nouveau ensemble dans nos lectures en liberté pour la suite du roman de Jean Rouault, Les Champs d'honneur. Au vrai, la petite tante redoutait surtout qu'on n'ait plus besoin de son talent. Elle avait en catimini prolongé de 5 années l'âge couperet de la retraite. Mais une médaille d'un quelconque mérite pour son demi-siècle d'enseignement avait fini par la dénicher au fond de son école de sœurs. Cette invitation jésuitique à passer la main s'était accompagnée d'une petite fête, manière de l'engager par des adieux devant témoins à ne plus reparaître. Mère, curé, vicaire, sœur de la communauté avec permission de sortie spéciale, missionnaire en transit, notable, la presque totalité de ses anciennes élèves, 3 générations, certaines déjà grand-mères et celles qui n'avaient pu se déplacer, avaient envoyé un petit mot, lu en public. Flot de souvenirs, émotion de l'attente en tortillant ses doigts comme une petite fille sur l'estrade plantée dans la cour de l'école où sa frêle silhouette recevait les hommages, rougissant quand un officiel lui donnait l'accolade. On entendait son baiser sonore, un claquement de ses lèvres sèches dans les haut-parleurs. Puis se lançant bravement dans une improvisation où elle bafouillait des remerciements, exprimait ses regrets de quitter le décor de toute une vie. Mais il fallait bien laisser la place aux jeunes, n'est-ce pas ? Elle n'en pensait pas un mot, évidemment, persuadée qu'après elle, le déluge, c'est-à-dire les stylos à billes et les fautes d'accord, et terminait son allocution sur une note humoristique précisant à tous les abonnés du bulletin paroissial que dès jeudi prochain, ils retrouveraient leur petit facteur du bon Dieu. Voilà, elle l'avait placé. « Entendez, vous ne m'avez pas encore enterré. » Mais pas une larme, quand on attendait des sanglots, rien. Son petit air pincé en redescendant l'estrade, elle boudait. Par la suite, elle redoubla d'ardeur dans l'accomplissement de ses charges paroissiales, s'attirant par cet excès de zèle les réflexions moqueuses de Mathilde, la veuve de son frère Émile, laquelle prenait avec la religion des libertés qui épouvantaient notre mari. La tante accusait le coup et attendait son heure. Elle faisait négligemment remarquer que les pétunias du jardin de sa belle-sœur, qui soignait avec passion ses parterres, étaient moins beaux et moins fournis que ceux de monsieur le curé. À quoi Mathilde répondait qu'elle ne les arrosait pas avec de l'eau bénite. La petite tante haussait les épaules en émettant un « pff » méprisant qui s'accompagnait d'une volée de postillons et s'éloignait en bougonnant entre les massifs de fleurs. Le contentieux entre elles remontait à très loin. Mais on n'attachait guère d'importance à ces chamailleries de vieilles dames. Leur numéro, bien au point maintenant, siamoise et rivale, depuis qu'un même homme, le frère et l'époux, les avaient réunis. Leur querelle empruntait des détours de tendresse tortueux. Quand au bout de quelques heures la tante n'avait pas réapparu, Mathilde poussait jusqu'à la maisonnette, proposait un reste de soupe que sinon elle jetterait, ce qui permettait à la tante, en acceptant, de faire preuve de dévouement. Une autre fois, elle lui tricotait d'autorité un châle. Sous prétexte que Marie nous faisait honte avec ses guenilles sur les épaules. Et toujours les sempiternelles remarques sur la bigoterie de sa vieille compagne. une manière de se renvoyer leurs 20 ans. Compte comparé d'affection donnée et reçue. Et dans chaque dispute, le reproche, maintenant noyé dans la nuit des temps, que l'autre était pour quelque chose dans le malheur qui les a frappés. Ce que disent précisément dans le langage des fleurs les pétunias. Son temps au service de la paroisse était à ce point rempli que la tante affectait de se demander qui, après sa mort, saurait reprendre le flambeau. Ce fut simple. Après sa mort, les bulletins furent déposés en pile chez le boulanger, où chacun se servait en prenant son pain. Seuls en pâtirent ceux au loin qui se faisaient envoyer par la poste les nouvelles paroissiales pour apprendre, parfois au bout du monde, que le 5 à 7h30 serait donnée une messe à la mémoire de, rappelé à Dieu il y a 1 an maintenant, que le 7 serait célébré le mariage du fils ceci et de la fille cela, ou qu'on avait à déplorer le décès survenu dans sa 75e année du dévoué monsieur Chose. Pensée, prière, requiescat in pace. Après la mort de papa, c'est un sentiment d'abandon qui domine. Le cours des choses épousait sa pente paresseuse avec un sans-gêne barbare. Jardin envahi par les herbes, allée bordée de mousse verte, le buis qui n'est plus taillé, les dalles de la cour qui ne sont plus remplacées et où l'eau croupit, le mur de briques percé de trous, les objets en attente d'un rangement, les rafistolages dans un éternel provisoire. Plus rien ne s'opposait au lent dépérissement. Dans les jours qui suivirent la mise en terre, Julien, le fossoyeur, rapporta à la maison 3 objets de valeur qu'il avait exhumés du caveau familial. Les 2 alliances des parents de papa et le dentier en or de sa mère. Il déposa son trésor sur la table de la cuisine, timidement, avec l'humilité des réprouvés. C'était un ancien ouvrier agricole, le grade le plus bas dans la hiérarchie des campagnes, un loueur de ses bras qu'on couchait dans l'étable et qu'on salariait d'un couvert. Accéder au poste de fossoyeur municipal fut pour lui plus qu'une promotion inespérée, une sorte d'adoubement. Il avait été recruté sur une métaphore. Accompagnant son patron à sa dernière demeure, il aurait répondu au maire qui le sollicitait « Les morts, c'est comme la semence. On met en terre et après, tout dépend du ciel. » Peut-être en effet, est-ce parce qu'ils enterrèrent d'abord leurs morts que les premiers hommes confiants en la résurrection inventèrent des millénaires plus tard ce geste plein d'espérance d'enfouir des graines dans le sol. Quoi qu'il en soit, l'anecdote rapportée valut à Julien de la considération. On lui trouva de la profondeur, celle qui sied à la fréquentation des morts. Dans les commentaires, il se disait qu'au contact de la nature, la solitude atteint fréquemment à cette dimension cosmique, et cela paraissait plus évident que d'une pomme qui tombe concevoir les lois de la gravitation universelle. La place de fossoyeur municipal étant vacante, le maire et son conseil, impressionnés par ce parangon de la sagesse populaire, l'attribuèrent spontanément au journalier philosophe sans emploi. Les premiers temps, il crut qu'on attendait encore de lui quelques sentences. Il ne manquait jamais de placer « les pierres sont les os de la terre ». Mais ne retrouvant pas la veine de ses débuts, il se cantonna bientôt prudemment dans son fief. Du fait de sa familiarité avec les morts, il s'accordait le privilège de ne pas baisser la voix quand il dirigeait les opérations, écrasant le murmure des visiteurs et marquant ainsi sa puissance locale. Il circulait comme un chat entre les tombes, dans son ensemble bleu rapiécé, terreux, le béret rabattu en accent circonflexe sur les yeux, progressant à longues enjambées dans ses bottes de caoutchouc vert. Par temps chaud, son litre de vin baignait au frais dans un seau d'eau près du seul robinet de l'enceinte auquel il suspendait sa veste. Il relevait un vase renversé par le vent, arrachait un brin d'herbe, ratissait la couverture de sable d'une sépulture, redressait dans l'axe un crucifix, arrangeait un bouquet de fleurs avec la délicatesse de ses mains cornées repliées d'avoir définitivement épousé le manche de sa bêche. Petit caporal de cette armée des ombres, il aurait volontiers tiré l'oreille de ses morts. N'était le risque qu'elle lui restât entre les doigts. Son jour de gloire était la Toussaint. Il organisait à son compte la vente des chrysanthèmes en pot qu'il disposait sur un étal, composé de 3 planches sur 2 tréteaux devant la grille d'entrée du cimetière. Aidé de son fils Yvon, qui n'était d'ailleurs pas le sien, il jouait volontiers les hommes d'affaires. Dès qu'il avait 3 clients, il passait de l'un à l'autre dans le style du valet de comédie, toujours courbé, relevant sans cesse du pouce son béret sur le haut du crâne, en homme débordé qui ne s'accorde pas le temps de souffler. C'était aussi une manière de s'aérer l'esprit, de lui offrir un délai de réflexion dans la conclusion d'une transaction, car il avait un peu de mal avec les chiffres. Pour faciliter l'opération, il arrondissait tous ses prix au 0. Si bien que selon les années, il était plus avantageux d'acheter ses 3 têtes ou ses 4 têtes. Il tirait de sa poche arrière de son pantalon, dont l'entrejambe lui tombait au genou, un épais portefeuille en cuir, dans lequel il glissait ses billets avec l'assurance d'un maquignon. Yvon se contentait d'un fac-similé en carton, une boîte à sucre chantonnet vide, pliée et repliée de manière à former 2 pochettes, l'une pour les billets, l'autre pour les pièces. Mathilde, chez qui il jardinait quelques heures par semaine, lui avait offert un ancien portefeuille de son fils Rémi, bien ciré, remis à neuf, mais à la fois suivante, au moment d'empocher son salaire, il ressortait son astucieux pliage qu'il présentait comme un modèle d'invention et la preuve d'un cerveau habile. De fait, il était plus proche de l'homo habilis que du sapiens sapiens. On ne savait s'il était le fils de son oncle ou de son grand-père, mais cet héritage pharaonique avait incontestablement laissé des traces. Son père adoptif l'envoyait livrer les pots de chrysanthèmes qui n'étaient pas destinés au cimetière de Randon. Yvon chargeait un cajot qu'il arrimait tant bien que mal sur son porte-bagages, enfourchait sa bicyclette, retournait sa casquette visière sur la nuque et dévalait le bourg à toute allure en criant « Vas-y, Bobet !»
C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur, c'est comme mère, lorgnait même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de nommer ici. Gare au gorille. Tout à coup, la prison bien close où vivait le bel animal s'ouvrant, c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit « C'est aujourd'hui que je le perds ». Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Patron de la ménagerie, gris était perdu, nom de nom, c'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fife des 2 fuseaux. Gare au gorille. Celle-là même qui naguère le couvait d'un œil décidé, fut y reprouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte. Bien des femmes vous le diront. Gare au gorille. Tout le monde se précipite hors d'atteinte du Saint-Jean rute, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra, s'endandinement vers les robes de la vieille et du magistrat. Gare au gorille. bas soupirait la centenaire, qu'on pût encore me désirer. Ce serait extraordinaire, et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible, qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Garogorie. Supposez qu'un de vous puisse être comme le singe obligé de violer un juge ou une ancêtre, lequel choisirait-il des deux? Une alternative pareille, un de ces quatre jours mes choix, c'est j'en suis convaincu la vieille, qui sera l'objet de mon choix. Garogorie. Mais par malheur, si le gorille au jeu de l'amour vaut son prix, on sait qu'en revanche il ne brille ni par le goût ni par l'esprit. Lors, au lieu d'opter pour la vieille, comme aurait fait n'importe qui, il saisit le juge à l'oreille et l'entraîna dans un maquis. Garogorie. La suite serait délectable, malheureusement je ne peux pas la dire et c'est regrettable, ça nous aurait fait rire un peu. Car le juge au moment suprême criait maman, pleurait beaucoup, comme l'homme auquel le jour même il avait fait trancher le cou. Garogorie.
Lecture en liberté, Denis Flagel.
Les Champs d'honneur, Jean Rouault. Tout le monde se moquait de lui. Enfant, il était déjà le souffre-douleur de ses camarades d'école dont le grand jeu consistait à la sortie à le coincer au pied de la vieille tour d'enfer, vestige branlant d'une enceinte médiévale, et à lui lancer des pierres. En classe, sous la surveillance du maître, il bénéficiait d'une relative amnistie, même s'il était régulièrement proposé en contre-exemple. Et les récréations ne se passaient pas trop mal non plus, sauf s'il pleuvait. Chacun s'ingéniait alors à donner des coups de pied dans l'eau boueuse des flaques pour l'en asperger. Son vrai calvaire débutait au moment de la ruée sauvage de 5 heures. Il prenait position à la base de la tour et attendait que la lapidation commence, s'abritant derrière son cartable qu'il relevait comme un bouclier à hauteur de son visage. Les pierres pleuvaient, s'abattaient avec un bruit mat sur sa pauvre défense. Entre 2 esquives, il trouvait quand même le courage de faire front, d'insulter ses assaillants. Son juron favori était en patois une sorte d'onomatopée qui lui tenait lieu de surnom quand les choses tournaient mal pour lui. Parfois, une pierre l'atteignait à la jambe, et on le voyait se mettre à danser comme un indien. D'autres fois, il s'écroulait en poussant des hurlements qui, au lieu d'attendrir ses agresseurs, provoquaient l'hilarité générale. Il ne se trouvait personne pour détourner la foudre de ce paratonnerre idéal. Sur un aussi bon sujet, le malheur ne se priva pas de déployer ses inépuisables ressources. À 15 ans, il voyait déjà grimper des lézards au mur et tout le bestiaire fantastique du délirium très mince, sans oublier les rats bien réels qui couraient sous son lit. À la mort de Julien, on ne trouva pas un drap propre dans la maison, au sol de terre battue. Yvon prit sa succession. Il se rengorgea un peu. Les femmes qui le croisaient le jugeaient vicieux parce qu'il avait porté sur elles un regard qu'elles qualifiaient de sournois et qui était surtout plein de convoitise. Pauvre Yvon, que toutes fuyaient. On l'a retrouvé mort dans un fossé, cirosé au dernier degré, couché près de son vélo, le compagnon fidèle de sa vie, renversé par une voiture sans doute, pour achever le travail commencé à la sortie de l'école. Les gendarmes classèrent vite l'affaire et il ne se trouva personne pour protester. Chacun s'accordait à penser que cette fin était la meilleure chose qui pût lui arriver. Yvon, mort à 29 ans, plus seul qu'un chien, vie lapidaire. Il accompagnait son père quand Julien apporta le dentier en or d'Aline et les deux alliances. Debout dans l'entrée de la cuisine, après avoir déposé leur butin sur la table et s'être reculés d'un pas, ils attendaient un petit quelque chose en plus du remerciement. Maman glissa une pièce à chacun. Une plus conséquente pour le père, et de quoi s'acheter des friandises, c'est elle qui précisa, pour Yvon. Comme il paraissait ne pas vouloir bouger tous les deux, elle s'avisa qu'elle oubliait l'essentiel. Elle s'excusa, mais elle avait la tête ailleurs, et ses yeux exténués de chagrin hésitèrent un moment, frêle miroir d'eau en équilibre. Julien, embarrassé, balbutia ce qui devait être des condoléances, une formule rodée à travers laquelle il s'essayait à une distinction au-dessus de ses moyens, puis esquissa le moment de s'en aller. Maman insista. Il prendrait bien un verre de vin. Il hésita pour la forme, ne voulait pas déranger davantage, mais après tout, ne disait pas non. Et pour son garçon, oh, la même chose, il avait l'habitude, ce n'était pas un verre de vin qui lui faisait peur. Et à sa façon d'acquiescer, sa mèche grasse collée sur le front, on voyait de ce fait que Yvon n'avait pas peur. Maman, effrayée, lui proposa malgré tout le sirop de menthe que buvaient les enfants. Est-ce qu'il n'aimerait pas mieux ? Yvon rougissait, gardait la tête baissée sans répondre. « Non, non, pas de complications, comme son père, » dit le père. Au vrai, ce ne fut pas compliqué. Sirop de menthe pour tout le monde. Maman s'avisait trop tard qu'elle n'avait pas de vin à demeure, une famille de buveurs d'eau. Le vin, on l'achetait aux grandes occasions pour les invités. Quand maman versa l'eau sur la menthe, Julien l'arrêta comme si on allait noyer son pastis. La chose pour lui était inédite. Seul le chagrin de cette jeune veuve l'avait retenu de s'esquiver. Il goûta, fit claquer sa langue et déclara que ce n'était pas mauvais. Une conversion très provisoire. Lui aussi s'en alla, victime de son foie. Verre en suspension et main sur la hanche, Yvon prenait la pose de son père, campé largement sur ses bottes de caoutchouc dont le fumet envahissait peu à peu la pièce. Pour meubler le silence, maman félicita le fossoyeur de son honnêteté. D'autres à sa place n'auraient peut-être pas eu les mêmes scrupules. C'était une manière de voir. Une autre eût été d'imaginer le père Julien s'appliquant pour masquer son forfait à fondre clandestinement son or dans son logement de misère et négociant son petit lingot auprès du bijoutier du coin, qui était Rémi et dont la boutique jouxtait notre maison. Il était évidemment plus simple pour le jardinier philosophe de se payer d'un pourboire et d'un verre de vin. La dite trouvaille, après son départ, fut déposée sur le buffet parmi les objets et les papiers en attente d'un rangement ou d'un tri. Une montagne hétéroclite qui s'écroulait chaque fois qu'on tentait d'en prélever un morceau. Une coupe à fruits, somptuosité tachiste, résolument moderne, en céramique ébréchée, était maintenant coulée dans la masse. Les quelques noix dans son creux, les seuls fruits qu'elle accueillit jamais, déposés là comme accessoires décoratifs le jour de son intronisation au centre du buffet, furent exhumés des années plus tard, un été, quand John, de passage, confia qu'il avait l'habitude de terminer ses repas par une poignée de fruits secs. Quelqu'un se rappela les noix, sans doute entreaperçues lors d'un précédent éboulement. Un travail de terrassier pour les atteindre, mais, de fait, elle reposait encore au fond de la coupe blanche, propre, javelisée, comme une victoire sur le temps. Il fallut vite déchanter. L'intérieur était tout poussiéreux. et les quelques amandes sauvées si sèches, si rabougries, qu'on se faisait l'effet de pilleurs de tombes incurgitant le repas funéraire placé près du corps, en prévision du grand voyage. Si l'on avait besoin d'une vis, d'un écrou, d'un tube de colle, d'une lame de rasoir, d'un ressort de montre, d'une bille, d'une épingle, d'un crayon, d'un trombone, d'une pièce percée en guise de rondelle, ou de ce minuscule tournevis d'horloger avec lequel nous resserrions les branches de nos lunettes, il suffisait de plonger dans cette niche écologique entre le bahut et le placard supérieur et de localiser le ravier en verre qui avait servi de baignoire aux petits mandarins blancs à bec grenat retrouvés morts les uns à la suite des autres au fond de la cage sans qu'on sût pourquoi. C'est dans ce beurrier piscine qu'on déposait ces pièces, dans l'idée qu'un jour on en aurait peut-être l'usage. C'est là qu'atterrit le dentier. Sa carrière de prothèse était à coup sûr terminée, mais de même que la mode était de métamorphoser un clairon en lampe de chevet et un joug en lustre, on pouvait toujours espérer un recyclage futur. Au début, on était effrayé d'imaginer une telle monstruosité dans la bouche d'un être humain. Ça tenait plutôt d'un instrument de torture. On l'aurait bien vu en forceps de la parole, entièrement en or, dents, palais, gencives, lourd, grossier, encombrant, rudimentaire. Extrait d'un champ de fouilles, on l'attribuait aux orfèvres scythes ou aux chirurgiens de la 18e dynastie. Mais ce qui eut suscité l'émerveillement dans la bouche de la reine Hatshepsut ne laissait pas de nous inquiéter pour le confort de notre grand-mère Chrysostome. La grande Aline n'était sans doute pas du style à se plaindre. Elle avait connu une suite de drames dans sa vie, le même drame recommencé, tous ses enfants morts-nés jusqu'au tardif et miraculeux Joseph, notre père, qui avait dû conserver le sentiment de la fragilité de l'existence puisque, en dépit de sa haute stature, il n'avait pas dépassé 40 ans. Aline avait gardé de ses épreuves un fond de tristesse qui frappait ceux qui l'approchaient, tristesse qu'accentuait encore la douceur de sa voix. Ah, sa voix ! Tous les témoignages concordent. À peine tombait-elle de sa bouche d'or qu'on en oubliait les formes massives, le corps abusivement charpenté que la malheureuse déplaçait entre les rayons du magasin avec la volonté de légèreté de ceux parmi les plus délicats qui redoutent par leur volume d'abuser de l'espace. Le dentier était à sa mesure. Débordant du beurrier piscine, il parlait pour elle. Les vis, les boulons, les gommes y étaient maintenant à l'étroit. Au moindre chamboulement sur le buffet, on les retrouvait étalés sur le linoléum gris de la cuisine, oisillons déplumés éjectés sans ménagement par un coucou parasite. Il fallait intervenir. On dégagea l'angle avant du plateau et le lourd dentier fut placé là, en soutènement, ce qui prévenait de sa masse les affaissements à la base. On n'y prêta bientôt plus attention. Seul le regard inquiet d'un visiteur nous renseignait parfois de son incongruité. Et puis, il se découvrit naturellement une fonction de presse-papier. Une lettre, une facture urgente était placée en attente, bien en vue, sous la puissante mâchoire dorée. On prenait nos repas à côté, sans en être le moins du monde dérangé ni impressionné. Voilà donc pour ce soir la suite de ce roman de Jean Rouault, Les Champs d'honneur, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.